Le thème de la prédication va porter sur quelque chose qui a été dit dans la prière et qui a été soulevé par la présidence de Francis ce matin, qui touche voilà un domaine qui est celui de la souffrance. Hein. Nous avons tous des sujets où nous avons été affligés. Hein. Il y a un an, on était rassemblés ici en ce lieu parce qu'un sujet nous avait, voilà, une nouvelle, triste nouvelle nous avait atteint. Et avec Annie, on disait, c'est curieux le calendrier parce qu'un an après, nous sommes encore réunis ensemble comme si Dieu voulait que l'on vive ce temps ensemble. Et je pense que c'est important, et nous allons méditer sur la notion du juste quand le juste est affligé. Quelqu'un a dit que la souffrance est l'université de Dieu, l'école où l'on apprenait. Hein. Et il est vrai que dans le groupe de quartier, on étudie l'épître de Pierre. Et c'est assez intéressant de voir que Pierre va parler de la souffrance. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que Pierre était un disciple réfractaire à l'idée de souffrir. Ah, s'il y avait vraiment un moyen d'échapper, il prenait ce raccourci. Hein. Il était réticent à être dans cette école de Dieu. Réticent à la rentrée scolaire. Il y a des enfants comme ça, hein, qui sont réticents à la rentrée scolaire. Hein. La nôtre, le deuxième jour d'école est venu en nous disant, c'est bon, j'ai réfléchi, l'école, c'est pas fait pour moi. À la maternelle, bon, on lui a dit, tu sais, tu as signé pour 20 ans. Enfin, elle a rien signé, mais elle était engagée pour 20 ans. C'est un peu comme l'apôtre Pierre. Lui, il y a des choses, il faut pas trop le bousculer. Hein. C'est lui qui a voulu empêcher Jésus de prendre le chemin de croix, rappelez-vous. C'est lui qui a promis même sa protection infaillible devant quiconque allait s'en prendre à sa vie. C'est lui qui a proposé, lors de la transfiguration, de faire une tente et pour Élie, et pour Moïse, et pour Jésus. On est bien entre nous, hein, loin du monde. Hein. Vous savez, ce matin, Francis nous a raconté une belle histoire de ses professeurs. Et je me rappelle de ce professeur qui disait, « Moi, j'enseigne parce que l'enseignement me coupe du monde. Je suis dans ma bulle, je suis protégé. Hein. » Voilà une manière de se garder des souffrances. Mais c'est aussi Pierre qui, à Gethsémané, a répondu aux adversaires de Jésus, hein, violemment, à ceux qui s'opposaient à lui, en sortant l'épée et en coupant une oreille. Donc, voyez, Pierre, c'est quand même quelqu'un qui va pas être facile à modeler. Et Dieu a travaillé sa vie. Et l'œuvre de la grâce a travaillé le cœur de cet homme à tel point qu'il est devenu un vétéran de la foi. Et son épître nous apprend beaucoup sur la notion de souffrance. Hein. Il va aider ses lecteurs à porter un regard autre sur la souffrance. Des lecteurs qui étaient troublés parce que ils sont devenus chrétiens, tout est merveilleux, tout est beau. C'était beau quand vous êtes convertis, non? C'était merveilleux. Et puis, retour sur terre. Ah, atterrissage pas toujours facile. Hein. Et Pierre écrit donc ceci, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Je ne sais pas si c'est le premier verset que l'on cite à quelqu'un pour l'amener au Seigneur. Oh, non, hein, on lui dit que Dieu l'aime, qu'il a de belles choses pour lui, la vie éternelle. Mais quand même, tôt ou tard, la question va se poser. Alors cette question, évidemment, cette souffrance, est un principe universel. Le juste, comme l'impie, nous dit la Bible, souffre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le croyant, comme le croyant, souffre. Le chrétien, comme les autres. Nous sommes atteints par des sujets qui nous affligent. La santé d'un tel qui se dégrade, d'un bien-aimé qui galère, vous savez, on entend des couples qui se séparent, ça nous affecte. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, eh bien, nous sommes un peu à la même enseigne. Et puis, ce matin, Francis l'a rappelé, en fait, j'avais pas entendu que le monde allait mal. Ben oui, le monde va mal, hein, c'est vrai. Et c'est vrai que nous faisons partie de ce monde déchu. Et l'apôtre Paul dit que nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, il n'y a pas un coin de paradis sur terre qui est épargné. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors les mamans doivent savoir ce que c'est que les douleurs de l'enfantement. Hein. Ah, c'est quelque chose. Hein. Parce que croyant et incroyant, eh bien nous sommes pécheurs. Et c'est l'Ecclésiaste qui dit ceci. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Constat aussi que l'apôtre Paul débat, quels que soient les peuples, eh bien, quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Y a-t-il un peuple moins pécheur qui souffre moins? Absolument pas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Alors, le croyant comme l'incroyant souffre à cause du péché. Le croyant comme l'incroyant rencontre les mêmes types de souffrances. Alors je ne sais pas si vous avez cette célèbre plateforme qui commence par net, qui finit par Flix. Donc il y a un film qui est très intéressant qui s'intitule The Goat Life. Alors en anglais ça veut dire une vie de chèvre. Alors c'est une histoire qui a fait scandale dans le Golfe. Il y a eu vraiment des tensions diplomatiques même. C'est un film indien qui raconte l'histoire vraie d'un homme ordinaire, donc qui va quitter donc l'Inde pour une vie meilleure en travaillant en Arabie Saoudite. Et que fait cet homme? Eh bien, il hypothèque sa maison pour payer son voyage. Et quand il arrive en Arabie Saoudite, notre principal personnage, croyant bien sûr en la terre promise, dont il ne parle absolument pas la langue, est embarqué par un homme qui l'amène dans un désert. Et pendant 3 ans, il va surveiller des chèvres sans être payé. Alors ce film, je vous le conseille, prenez un bon paquet de mouchoirs, pendant 3 heures vous pleurez. Et vous dites, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui souffrent autant. Après, je me suis dit, mais si, c'est pas nouveau. Il y a aussi des chrétiens qui ont souffert. Joseph. Vous imaginez Joseph, homme libre, homme qui pouvait aller où il voulait. D'un coup, il se retrouve en prison parce que ses frères l'ont vendu. Là aussi, on devrait prendre nos mouchoirs et pleurer sur ces situations. N'est-ce pas? Oui, le croyant comme l'incroyant rencontre de la souffrance. Et parfois, elle est intense. Elle peut être provoquée par l'injustice, la violence. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est à la mode, hein, c'est l'arnaque, les arnaques téléphoniques ou par Internet. Alors demain, je vous explique pas, qui n'est pas loin avec l'intelligence artificielle. Hein. Bon, la souffrance physique aussi existe. Nous souffrons en tant que chrétiens dans notre corps, comme les non-chrétiens. La souffrance psychique peut être aussi relationnelle, dans les relations familiales, de couple, amicales, et même au niveau professionnel. Le monde n'est pas épargné par cette souffrance. Et si nous voulons ne pas y penser ou ne pas en parler, eh bien elle finit par, bien sûr, nous rattraper. Mais il y a quand même un domaine, j'allais dire, qui est particulièrement réservé aux chrétiens. L'apôtre Pierre le dit ceci, « Bien-aimés, dit-il, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. » Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Alors là, c'est la souffrance qui est liée à notre foi. Nous appartenons au Seigneur. Dieu a fait une grâce, c'est de venir dans notre vie. Et la question c'est, mais pourquoi est-ce que je devrais souffrir? Jésus le dit. Souvenez-vous, dit-il à ses disciples, de la parole que je vous ai dite. Donc c'est pas nouveau, hein. Il leur fait un rappel. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, eh bien, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. En réalité, pour Jésus, il n'y a aucune bonne raison pour que la souffrance prenne le chrétien au dépourvu, au niveau de sa foi. Pourquoi certains chrétiens seraient-ils surpris parce qu'ils rencontrent des obstacles et de l'adversité concernant leur foi? Et l'une des raisons est sans doute qu'il y a des prédications largement répandues, celle d'un évangile déformé, dans lequel Jésus est présenté comme la clé du bonheur et de la félicité terrestre. Il est la solution à tous nos problèmes. Moi, des chrétiens sans problème, je n'en ai pas vu. Peut-être que je fréquente les mauvais chrétiens, je ne sais pas. Hein? En tout cas, oui, la souffrance est quelque chose qui nous atteint. Et celui qui va particulièrement cibler cette souffrance, eh bien, c'est le diable. Vous croyez qu'il va se gêner ? Absolument pas. Regardez ce que Jésus dit à Pierre, celui dont on parle. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Et nous voilà affligés à cause de notre foi. Nous voulons obéir, nous voulons suivre. Que fait Satan ? Il nous décourage et nous fait souffrir. Un évangile sans souffrance, sans épreuve et sans obéissance, ça n'existe pas. Mais il y a quelque chose qui nous afflige aussi, mes frères et sœurs, certainement. Quelque chose qui entache le nom du Seigneur. Quand nous allumons les médias, comme disait Francis, n'êtes-vous pas affligés par un malheur qui nous affecte et qui touche le nom même du Seigneur, quand ces hommes d'église très médiatisés par leur attitude font blasphémer le nom du Seigneur, ne sommes-nous pas affligés à cause de cela? Notre foi n'est-elle pas en train de dire, mais Seigneur, nous qui les prenions peut-être comme modèle, regarde le contre-exemple qu'ils donnent. Je crois que nous avons raison d'être affligés. Si nous ne le sommes pas, c'est que il y a un problème à ce niveau. Et je pense que le diable, c'est une manière qu'il a, eh bien, de rabaisser notre foi et de nous persécuter. Comme, bien sûr, ce ne sont pas nos péchés dont il s'agit. Hein. Nous pouvons souffrir à cause des péchés des autres. Et nous pouvons aussi souffrir sans avoir péché. Job a été attaqué alors qu'il n'avait pas péché. Et c'est le diable qui le réclamait, n'est-ce pas ? Joseph, c'est, je crois, le personnage le plus proche de l'image de la personne de Jésus dans l'Ancien Testament. Il n'a pas été épargné. Et en lisant les évangiles, nous voyons que Jésus a souffert. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui nous a sauvés de la mort éternelle ? Souvent on dit la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est juste la fin. Il y a toute cette période de souffrance qui a accompagné le Seigneur, qui fait partie de l'acte de notre salut. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons Jésus qui a souffert et qui n'a pas laissé la colère l'envahir, ni la révolte s'emparer de lui. Nous voyons de sa part aucun geste agressif, aucune plainte. Il est resté confiant en son Père. Mais sa souffrance a été certainement mal vue. Certes, dit Isaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Un chrétien peut souffrir parce qu'il a été réclamé à cause de sa fidélité. Alors, les réactions que cette souffrance suscite en nous sont diverses. Chez l'incroyant, il y a l'incompréhension. Il ne comprend pas pourquoi on souffre. D'ailleurs, quand on parle de Dieu, quel est le premier argument ? Le mal, la souffrance. Hein ? Et il y a, voilà, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on souffre ? Hein ? D'ailleurs, c'est ce professeur d'université dont tu nous as raconté l'histoire, Francis. Il y a le découragement, voilà, le fatalisme chez l'incroyant, la révolte. Et puis l'accusation contre Dieu. Alors ne soyons pas surpris. Lorsque un non-croyant se révolte contre Dieu, quelque part il n'y a rien d'anormal. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas connaissance de ses promesses, de son amour, de sa parole, de son caractère. Et ce que je trouve surprenant, c'est l'humour de Dieu. Parce que bien souvent, quand nous entendons un témoignage, eh bien la personne qui s'est convertie raconte l'histoire de ses souffrances qui l'ont mené à Dieu. C'est extraordinaire, non? Au lieu de l'éloigner, ces souffrances l'ont ramené à Dieu. Ces témoignages, eh bien, nous parlent d'une épreuve à salut. Parce que Dieu, ne l'oublions pas, veut que tout homme soit sauvé. Donc, lorsque nous sommes face à un non-chrétien, avec cette question sur la souffrance, prenons le temps de l'écouter. Ne balayons pas d'un revers de manche, comme si ce qu'ils vivaient n'était pas important. Jésus les aime comme il nous aime, et son sacrifice est autant pour eux qu'il est pour nous. Il faut bien sûr se l'emparer par la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul rappelle dans l'épître aux Romains, car lorsque nous étions, nous, pas les autres, nous, encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Il est mort pour nous alors que nous étions révoltés contre lui. Mais chez le chrétien, il peut y avoir aussi une réaction surprenante face à la souffrance. Il peut y avoir l'incompréhension, il peut y avoir le découragement, mais il peut y avoir aussi la révolte. Un chrétien peut tout à fait reprocher à Dieu ce qu'il est en train de vivre. Alors, est-ce que c'est juste? Dieu est patient, heureusement. Un chrétien peut lever le poing contre Dieu et lui dire, mais que fais-tu là? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi as-tu permis telle ou telle chose? Vous savez, comme Job a dit, maudit soit le jour, ou comme Jérémie, maudit soit le jour où je suis né. Pourquoi ma vie a-t-elle pris un tel tourment? Ma vie est-elle inutile? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue? Est-ce que, Seigneur, tu es juste envers, es-tu juste véritablement envers moi? Alors, une chose est sûre, c'est que, à ces questions et à ces révoltes, nous devons impérativement, revenir à ce que la Bible dit. La Bible, lorsqu'elle parle des hommes de foi qui vivent des temps de souffrance, elle rappelle que Dieu ne cherche jamais notre ruine à travers la souffrance, ni notre chute. Dieu cherche notre édification, notre croissance. C'est un commentateur biblique, donc Robert de Finbeau, qui disait ceci. Ce n'était pas la chute de Job que Dieu avait en vue lorsqu'il a permis au diable de l'attaquer, mais c'est bien sa croissance. Mais ni les amis de Job, ni sa femme ne lui furent d'un réel réconfort parce qu'ils ne l'orientaient pas vers Dieu. Lorsque Job a souffert, le but du diable était de l'enfoncer, mais l'objectif de Dieu était de montrer à Job qu'il allait être édifié. Et dans son épître, Pierre nous enseigne, comme il enseigne les chrétiens qui souffrent, que le chrétien n'est pas victime, mais qu'il peut être victorieux dans les souffrances. Que dit-il? Il dit ceci, « Vous aimez Jésus sans l'avoir vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore. Et à cause de lui, vous êtes transporté de joie et d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Car vous êtes assuré de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. » Alors ce verset, nous l'avons étudié en groupe de quartier, et puis Jacques, donc Fourniol, a tiré des petits signets que vous pouvez prendre à la sortie, qui est sur le banc d'accueil. Voilà. Et Louise est d'accord avec nous. Il n'y a pas de souci. Alors, que fait l'apôtre? L'apôtre Pierre, eh bien, nous encourage à tourner nos regards vers Dieu et vers son Fils, qui non seulement nous permet d'obtenir le pardon de nos péchés, mais aussi la victoire dans des moments difficiles. Nous n'avons pas seulement été sauvés pour faire face aux difficultés de la vie, mais nous avons été appelés à grandir spirituellement, à être des vainqueurs en Christ, même et à travers aussi les épreuves et les tribulations. Croyons-nous cela? Mais croyons-nous réellement cela? Et si oui, est-ce que nous nous comportons en conséquence? C'était l'attitude de Paul. Paul, un homme vraiment qui a souffert. Je crois que d'un point de vue humain, Paul a fait la plus mauvaise affaire de sa vie. À partir du moment où il a dit oui au Seigneur, oh là là, les complications sont arrivées. Que dit-il à Ananias, vous savez, hein, quand il était en prière, hein? Va prendre cet homme-là, hein, que j'ai choisi parce qu'il doit souffrir pour moi. Quelle gloire pour l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'il écrit. Il dit ceci. En Timothée, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle. Quel privilège, en m'établissant dans le service. Quand Dieu permet la souffrance dans nos vies, c'est pour notre croissance, c'est pour notre édification. Il la prévoit pour notre bien et pour notre gloire, jamais pour notre ruine. Vous savez, nous avons appris cela avec Annie, à l'époque où notre petite Esther fait, et votre petite Esther aussi, parce que vous la connaissez depuis toute petite est née. On a entendu des chrétiens bienveillants. À l'époque, l'Église passait aussi par une crise, hein. Ouais, c'était compliqué pour nous, hein. Premier poste, etc. Et des chrétiens bienveillants nous disant que, voilà, Dieu nous bombarde, nous, pour nous faire tomber. Hein. C'est sympa, hein. Mais nous avons compris une chose devant le Seigneur. Nous avons compris que malgré tout, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. On ne savait pas comment Dieu allait faire, mais on savait qu'il était là et que ça allait d'une manière ou d'une autre concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je peux vous garantir que parfois son attitude parle plus fort que les prédicateurs les plus connus et réputés que nous avons rencontrés. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais bien sûr, ce ne sont pas des souffrances que nous souhaitons aux autres, hein. Comme quelqu'un a écrit un livre parce qu'il avait un enfant particulier, il a dit « un cadeau que je ne souhaite pas aux autres ». Mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, on se dit « Seigneur, toi tu ne m'as pas lâché, et ce que tu fais, ça va quand même être pour notre bien et pour ta gloire. » La souffrance et la douleur ne doivent bien sûr pas être sous-estimées, jamais. Mais elles ne doivent pas être non plus être surestimées à tel point qu'elles nous aveuglent. L'autorité sur nos vies n'appartient pas à ceux qui peuvent nous nuire et nous détruire, mais elle appartient à celui qui a le pouvoir sur notre destinée éternelle. C'est pourquoi Jésus va recadrer un peu ses disciples. Vous savez, oh, on a tellement de gens contre nous, on souffre tellement de l'opposition. Jésus leur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Alors mon frère, ma sœur, c'est une question qui revient à chaque fois que nous souffrons, hein. Est-ce que c'est ma foi qui va me porter ou est-ce que c'est ma religion qui va me peser? C'est pourquoi quand la souffrance arrive, ceux qui n'ont vécu que de la religion vont laisser tomber et la souffrance peut être un test. Alors oui, Jésus aussi a dû rappeler cela à ses disciples sur ce chemin d'Emmaüs. Le Christ, leur dit-il, à des disciples troublés par la souffrance, eh bien ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? La souffrance n'était pas la fin de la vie de Jésus. C'était pas la mort et fini, c'était la ruine de son message. Mais bien au contraire, c'était une victoire. Et c'est une vie, et la vie pour nous. Et c'est ce que Pierre dit, hein, car c'est en effet à cela que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez sa trace. Oui, la souffrance nous permet de grandir avec Dieu, de nous affermir avec Dieu. Et vous savez, elle nous rend aussi tellement sensibles à la souffrance des autres. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier aussi dans la souffrance, c'est qu'elle met en avant la valeur de la communion fraternelle. Elle crée une amitié fraternelle avec ceux qui prient avec nous, avec ceux qui portent avec nous, avec ceux qui vivent avec nous. Alors, le dernier point, c'est comment affronter cette souffrance. Comment l'affronter? Alors, c'est depuis la perspective du ciel que nous devons considérer nos souffrances. Pierre écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, son amour, nous a amenés à la vie, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous pouvons pleurer sur nos souffrances tant que nous avons nos yeux fixés en bas. Mais quand nous levons les yeux au ciel et que nous considérons nos choses depuis les perspectives du ciel, alors Pierre nous dit que nous pouvons louer Dieu et nous pouvons nous réjouir parce que le ciel nous est déjà assuré. Notre salut, mon frère, ma sœur, est assuré parce que du début jusqu'à la fin, ce salut reste l'œuvre de Dieu. Je n'ai plus à œuvrer pour gagner quelque chose qui a une valeur inestimable. Ce salut nous a été donné et moi je suis un fervent militant pour l'assurance du salut. Un vrai chrétien a obtenu le salut et ce dépôt, et Dieu va le garder jusqu'à la fin. Vous vous rappelez lorsque Jésus a averti Pierre que celui-ci allait le renier, hein, prochainement, Pierre, que fait-il? Il riposte. Jamais de la vie. Pas moi. Il garantit même à Jésus que les autres pouvaient le renier. Mais que lui, jamais. Mais Jésus dit à Pierre qu'il va sombrer, mais pas totalement. Hein. Que lui dit-il? Il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu en moi, affermis tes frères. Nous ne pouvons pas penser à cette histoire sans lire tout le verset en entier. Oui, Simon, tu penses que tu allais affronter les choses tranquillement, hein? Dans ton orgueil, eh bien, tu verras l'œuvre de la souffrance. Mais sache une chose, c'est que moi, je vais prier pour toi, afin que tu ne tombes pas totalement. Je crois que c'est dans cet échec-là que Pierre a véritablement appris qu'il ne pouvait plus compter sur sa fidélité, mais qu'il pouvait compter avant tout sur le salut et la fidélité de Dieu. Oui, notre cœur a été donné au Seigneur. Le Seigneur l'a mis dans un coffre et nous dit, je vais prendre soin de toi. Tu peux être dans cette garantie que si tu échoues et tombes, tu n'échoueras jamais complètement parce que Jésus prie pour toi depuis le ciel. Ainsi, nous sommes protégés par la puissance de Dieu pour quelque chose qui nous attend. C'est ce salut qui va être à un moment donné complètement révélé à nous-mêmes. Et c'est Pierre qui le dit. Nous sommes là pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu, pas par vos forces, pas par vos pensées, combien même on pouvait être professeur d'université, mais à vous qui par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors je trouvais que ce verset est un peu compliqué dans la version Louis II. Parole de vie dit ceci, parole vivante dit ceci, il est question de ce salut qui est déjà prêt, mais qui ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. C'est ce qui nous attend. Tout est déjà prêt. Le festin est préparé. La table est mise. Les noces de l'agneau, nous dit la Bible, tout ceci est prêt. Il ne manque plus que nous. Et ce n'est pas un hasard si Paul, dans toutes ses épîtres, commence toujours à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Après, il parle des problèmes et des questions de la souffrance. Mais avant tout, il nous parle de la foi. quelque chose qui est acquis. Je ne sais pas où tu en es au point de vue de ta foi. As-tu remis ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie à Dieu? Il y a une chose avec laquelle on ne joue jamais. Ne joue jamais avec ton âme en disant « Je répondrai plus tard, et plus tard, et plus tard. » Un jour, quelqu'un m'avait dit « Bon, moi, je ne crois pas à ces histoires de Dieu et d'âme, etc. » Alors, je lui ai dit à l'époque, je lui ai dit « Ben, écoute, on va faire une chose, vends-moi ton âme. » Et il me dit « Ah bon ? Et vends-moi ton âme, tu n'y crois pas, tu peux me la vendre. » Et je lui avais donné 200 francs, pas euros, hein, 200 francs, il a refusé. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose en lui qui allait se troubler. Nous avons tous une conscience qui nous dit qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Ne laisse pas passer ce temps, ne remets pas plus tard ce que tu peux régler aujourd'hui. Car nous le savons tous, aujourd'hui ne nous appartient pas. C'est depuis donc la perspective du ciel que nous devons considérer les souffrances par lesquelles nous passons. Paul dit « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Autrement dit, réfléchis. Réfléchis à toutes les difficultés que tu as eues. Tu mets ça sur la table. Rajoute-y toutes les souffrances que tu as eues. On met ça sur la table. Rajoute-y tes douleurs et trahisons que tu as subies. On met ça sur la table. Rajoute-y les peurs, rajoute-y tes pleurs, rajoute-y tes angoisses, tout ce que tu veux. Mets ça sur une table. Ajoute-y et multiplie-les par le nombre d'années, peut-être, voilà, par lesquelles tu as vécu tout cela. Eh bien, en réalité, c'est infiniment rien par rapport au poids éternel d'enfer que vont vivre ceux qui rejettent Dieu. Infiniment rien. Et les combats que tu auras gagnés porteront un poids éternel infini de gloire. Voilà ce que nous dit Paul. Car nos légères afflictions, il en a bavé Paul, hein. Il dit pas vos légères, mais nos légères. Hein. Je pense que c'est pas un missionnaire que je conseillerais de suivre. Hein. Vraiment en plan galère, n'est-ce pas? Et pourtant, il dit ceci, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples qui étaient venus dans un moment de succès, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez du succès. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Être certain de l'espérance future du croyant, c'est être équipé pour endurer les souffrances présentes auxquelles nous avons été appelés. Si je suis sûr, convaincu, hein, en celui en qui je crois, eh bien je peux résister face aux souffrances. Il est regrettable que de nombreux chrétiens regardent le ciel plutôt à partir des difficultés, plutôt que regarder les difficultés à partir du ciel, n'est-ce pas? Quand certains chrétiens souffrent, dit ce commentateur, ils commencent alors à douter de leur salut et de la certitude de leur espérance, parce qu'ils voient leur souffrance depuis une perspective terrestre. Humainement, nous sommes comme Pierre avant la Pentecôte. Nous sommes plutôt des réfractaires. Moi, j'ai résisté pendant 10 ans à l'appel pastoral parce que je voyais que mon pasteur en bavait. Et je me disais, je ne veux pas en baver comme lui. 10 ans. Je dis, non Seigneur, je ne signe pas. Et c'est normal. À l'idée même de souffrir, on est réfractaire. Parce qu'on pense et on part de l'idée que la souffrance est préjudiciable à notre bonheur. Et si c'était le contraire? Sérieusement. Et si c'était le contraire? Si nous avions besoin de passer par des choses difficiles, d'avoir des limites, d'être parfois secoués et d'être déçus des promesses du monde pour être réellement heureux. En tout cas, c'est ce que Jésus dit sur le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car ils seront dans l'allégresse et leur récompense sera grande. Alors en conclusion, oui, nos peurs, nos craintes, nos douleurs devraient être contenues par la certitude de la puissance et de la présence de Dieu. Oui. Dieu reste notre refuge. Il est notre force, parce qu'il est ce Dieu tout-puissant. Et rien ne peut nous faire perdre son amour. Qui nous séparera de l'amour de Christ, dit Paul? Et de quoi parle-t-il? De la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, du dénuement, du péril, de l'épée. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera jamais rien, n'est-ce pas? Ou quelque chose de fâcheux. Je sais que cela n'échappera jamais à celui qui nous a sauvés, qui nous a aimés, qui a un plan pour nous et qui nous gardera du début jusqu'à la fin et jusque dans l'éternité. Et ce n'est pas un malheureux hasard, mais c'est quelque chose qui nous portera à le glorifier. De grâce, ne faisons pas n'importe quoi pour nous sortir d'une souffrance. Des fois, on prend les mauvaises options, les mauvaises décisions. Mais ayons ce réflexe de nous réfugier dans la présence de celui qui nous connaît si bien, qui sait que nos souffrances, combien difficiles et lourdes parfois, eh bien, sont tout de même limitées. Pour être consolé de tes souffrances, porte les regards vers celui qui détient toutes choses et même le jugement final. Pour être consolé de ta souffrance, porte tes regards vers les hauts faits et les œuvres visibles de notre Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a été compatissant et bon et juste, de ce qu'il te réserve la gloire, la joie et la vie éternelle. Ranime dans ton cœur le souvenir de sa grâce dans ta vie. Et sache que même dans la souffrance, eh bien, comme dit Jérémie, ses bontés ici-bas ne sont pas épuisées. Afin, que dit l'apôtre Pierre, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire, d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Que le Seigneur déverse en nous la paix qui vient de son Saint-Esprit et qu'il affermisse nos pas. Oui, nous souffrons, encore pour un peu de temps, jusqu'à ce que les portes de la gloire éternelle s'ouvriront. Et combien je serai heureux de nous y retrouver chacun et d'y retrouver ceux que nous aimons, ceux qui nous ont précédés, eux aussi. Ils ont souffert, mais ils n'ont pas lâché parce que Dieu reste fidèle.